Salut à toutes et à tous. Si les jeux de type Survival Horror sont très populaires de nos jours, avec de nouveaux titres sortant chaque mois, il y a 20 ans, ce genre était très marginal. Des jeux tels que Project Firestart, Sweet Home ou Alone in the Dark tenteront de faire connaître la peur aux joueurs. Mais c'est avec l'arrivée de Resident Evil que le genre va réellement se démocratiser. Pourtant, un an avant le titre de Capcom, le studio Human Entertainment tentera sa chance dans cet exercice périlleux avec une saga qui, si elle reste encore aujourd'hui trop méconnue, a néanmoins posé les bases du survival horror moderne et aura inspiré d'autres titres du genre. Cet épisode de Rétrovision est donc entièrement consacré à une rétrospective de la tétralogie Clock Tower. Everyone must die. Sorti en septembre 1995 au Japon, Clock Tower nous compte les mésaventures de Jennifer Simpson, jeune orpheline de 15 ans, adoptée avec trois de ses amis par le riche propriétaire d'un manoir situé au beau milieu de la forêt de Romsdalen en Norvège. Arrivée dans la grande demeure, leur accompagnatrice, Miss Mary, part chercher le maître des lieux. Celle-ci, tardant à revenir, Jennifer décide d'aller la trouver. Mais une fois que cette dernière a quitté ses amis, des cris la font revenir sur ses pas. Ses amis ont disparu. Pensant tout d'abord à une mauvaise blague, notre héroïne déchantera bien vite quand elle les retrouvera une par une, sauvagement assassinées par un gamin difforme, au teint blafard et armé d'une gigantesque paire de cisailles. Pour Jennifer, plus qu'une chose compte maintenant, s'échapper à tout prix de ce manoir. La première chose qui étonne avec Clock Tower, c'est en tout premier lieu son gameplay. Celui-ci se présente comme un point and click où toute interaction avec Jennifer et les autres éléments du jeu se font via un curseur. Il suffira donc de pointer et valider pour ramasser un objet, effectuer une action ou parler avec une personne. Ces actions sont facilitées par le fait que le curseur change de forme dès qu'il passe sur tout élément interactif. Le reste du temps, celui-ci servira à indiquer la direction vers laquelle Jennifer doit marcher. Vous pouvez également courir en effectuant une pression sur les boutons L ou R de la manette, mais cela fatiguera notre héroïne. Sa santé physique et mentale étant représentée par la couleur du fond de son portrait en bas à gauche de l'écran, celui-ci allant du bleu au rouge. Il est important de garder une bonne santé mentale, car c'est ce qui permettra à Jennifer de survivre. En cas de face-à-face avec Bobby, alias Scissorman, votre portrait se mettra à clignoter. Il s'agit du mode panique, où il faudra mitrailler le bouton B pour que Jennifer puisse s'échapper des griffes de son assaillant. Mais ce dernier, moins bête que la moyenne, vous poursuivra dans les diverses pièces de la demeure. Le seul moyen de vous en débarrasser sera de vous cacher. Et oui, dans Clock Tower, il n'y a aucune arme pour se défendre. Seul votre self-control vous permettra de survivre. En cas de stress ou de fatigue intense, vous pourrez vous reposer dans les coins sûrs pour faire baisser votre rythme cardiaque et reprendre votre souffle. À vous donc de jongler entre les phases de recherche et les courses-poursuites avec Bobby pour découvrir les secrets du manoir Burroughs et sortir vivant de cet enfer, mis en scène comme un film d'horreur des années 80. Car ce n'est pas un mystère, les développeurs du studio Human sont des cinéphiles et s'inspirent beaucoup du 7e art pour la création de leurs jeux. On se souviendra aussi du jeu The Fireman, très inspiré de la Tour Infernale, ou de Septentrion, empruntant son histoire à l'aventure du Poséidon. Dans le cas de Clock Tower, c'est le travail du réalisateur italien Dario Argento qui fut la source d'inspiration des programmeurs, en particulier les films Phenomena, Suspiria et Profondo Rosso, dont il reprend de nombreux éléments. Clock Tower est un jeu qui mise tout sur son ambiance. Ainsi, la progression se fera sans musique, celle-ci se faisant entendre qu'à des moments clés. On pourra reprocher au jeu son rythme très lent qui en rebutera plus d'un, ou ses graphismes quelque peu austères. Mais c'est une constante chez Human, l'éditeur privilégiant l'originalité du gameplay et de l'ambiance à l'esthétique globale. Pour peu que l'on passe outre ces considérations, le jeu devient vite prenant et on s'étonnera de le recommencer souvent pour réussir à visualiser les 9 fins différentes qui nous sont proposées. Ce premier opus de Clock Tower est le seul à n'avoir jamais été distribué en dehors du Japon. Néanmoins, il est également le seul à avoir été adapté pour plusieurs supports. D'abord apparu en 1995 sur Super Famicom, celui-ci sera adapté sur PC puis PlayStation en 1997. Chacune de ces versions apportant son lot de nouveautés comme une intro animée, une salle supplémentaire, de nouveaux événements, une difficulté accrue, etc. Enfin, en 1999, le titre se verra porté sur WonderSwan. Malgré le passage monochrome, le jeu reste très lisible, mais ralentit énormément. Le portrait coloré de Jennifer disparaît, le niveau de santé étant visualisé par l'indicateur de la batterie de la console. Si la qualité des musiques n'est pas au top, la qualité des bruitages de cette version nomade en étonnera plus d'un. Clock Tower profitera également de la dématérialisation avec une version Super Famicom disponible sur la Virtual Console de la Wii et une version PlayStation disponible sur le PlayStation Store. Mais dans les deux cas, seuls les Japonais peuvent en profiter. Nous sommes en 1996, un an a passé depuis l'affaire du manoir Burroughs et toute la presse norvégienne s'est passionnée pour cette histoire. Malgré tout ce temps, de nombreuses zones d'ombre subsistent. C'est pourquoi Jennifer Simpson réside désormais à Oslo, où elle est le sujet d'étude du docteur Samuel Barton, expert en psychologie criminelle qui, via des séances d'hypnose, tentera d'extirper à son patient des brides de souvenirs profondément enfouis pour pouvoir éclaircir une affaire encore trop mystérieuse. Mais l'enquête se compliquera lorsqu'un invité surprise fera son apparition, Scissor Man en personne, venu pour en finir avec Jennifer. Suite directe du premier opus, Clock Tower Second reprend les mêmes mécaniques de jeu que son prédécesseur. Il s'agit toujours d'un point and click, mais cette fois-ci entièrement en 3D. Les phases d'enquête alterneront toujours avec les courses-poursuites contre Scissor Man. Néanmoins, plusieurs différences sont notables. D'une part, vous ne serez plus cantonné dans un seul et même endroit. L'enquête se fera dans plusieurs lieux d'Oslo pour finir dans l'illustre château des Burroughs en Angleterre. D'autre part, vous pourrez désormais incarner plusieurs personnages. Le jeu étant désormais segmenté en plusieurs chapitres, vos actions et les dialogues que vous aurez avec les autres protagonistes influenceront le choix du personnage jouable dans le chapitre suivant. Ainsi, le scénario peut prendre plusieurs embranchements possibles pour déboucher sur l'une des multiples fins disponibles. Enfin, s'il est toujours possible de vous cacher pour échapper aux cisailles de Scissor Man, vous pourrez désormais utiliser certains éléments du décor pour vous défendre, comme un extincteur par exemple. Cette suite, qui aurait pu être développée sur Saturn ou Nintendo 64, est finalement sortie sur PlayStation en décembre 1996 au Japon. A l'instar de la version Super Famicom, la réalisation de cet opus est loin de ce que la console peut faire de mieux. Les personnages sont cubiques et raides, l'animation lente et saccadée, et les couleurs sont assez ternes. Toutefois, l'ambiance reste toujours aussi prenante, pour peu que l'on ne soit pas rebuté par les défauts décrits précédemment. Et les musiques interviennent toujours au moment clé, renforçant la mise en scène. Digne héritier de la franchise, cet épisode souffre de deux défauts majeurs, hors considération technique. Primo, les interventions de Scissor Man, qui, si elles sont bien dosées dans les premiers chapitres, seront franchement envahissantes vers la fin du jeu, où vous n'aurez plus guère de temps pour mener votre enquête. Secondo, le scénario souffre d'une faille tellement énorme et grossière qu'elle renseignera celui qui a déjà joué au premier opus sur l'identité de Scissor Man, et c'est bien dommage. Il n'empêche que ceux qui ont apprécié le premier Clock Tower apprécieront également cette suite qui, contrairement au premier opus, permet enfin de jouer à la souris, ce que ne proposait étrangement pas la version Super Famicom. Alors que Capcom cartonnait avec son Resident Evil, ASCII a voulu tenter sa chance avec Clock Tower en distribuant cet épisode en Occident. Commercialisé en Amérique du Nord et en Europe, dont la France et l'Allemagne qui bénéficieront de versions localisées, le jeu sortira trop tard, en février 1998, soit 3 mois avant Resident Evil 2. Littéralement lynché par la presse spécialisée qui ignorait l'existence de l'opus précédent, le jeu ne connaîtra pas un grand succès dans nos vertes contrées. Si les ventes étaient un peu meilleures aux USA, le jeu aura trouvé son public au Japon où le titre aura connu des ventes confortables. Ironiquement, si Clock Tower Second n'est plus influencé par le cinéma d'épouvante, c'est le jeu lui-même qui servira de source d'inspiration pour d'autres développeurs. Même s'il est difficile de le prouver, on retrouvera certains éléments forts de la franchise dans d'autres titres, notamment le principe du stalker, comme le disent si bien les anglophones, l'ennemi qui poursuivra sans cesse. Mars 1998, nouvel opus de Clock Tower, mais changement de direction radical d'un point de vue scénaristique. Au placard, les Jennifer Simpson et autres Scissor Men, la nouvelle trame scénaristique introduit son lot de personnages inédits avec au premier plan Elisa Hell, Yu Midoshima dans la version Jap, adolescente comme les autres, à un détail près, celle-ci possède une double personnalité. Son côté obscur étant matérialisé par un esprit froid et sadique répondant au doux nom de Bates, Sho en version Jap.
Don't be afraid, Alyssa.
Celui-ci, dès qu'il prend possession du corps d'Alyssa, lui permet d'effectuer certaines actions que ne pourrait faire la jeune adolescente en temps normal, comme se battre ou tenir une arme. Heureusement pour Alyssa, elle peut contrôler son double maléfique grâce à une amulette qu'elle doit garder en permanence sur elle. Alyssa et son alter ego Bates, faut-il y voir un clin d'œil à Norman Bates, propriétaire de l'hôtel du film Psychose, devront percer le mystère d'une troublante malédiction qui semble les toucher, ainsi que tous leurs proches, et affronter le tout aussi mystérieux Ghost Hate.
Everyone must die. And suffer forever.
Bien que ce jeu soit estampillé Clock Tower, il n'en a que le nom, tant on est loin de l'histoire des deux précédents opus. De ses prédécesseurs, le soft n'en garde que le principe de jeu, un point and click où vous devrez fuir face au danger. Néanmoins, il faut bien avouer que la gestion des deux personnalités d'Alyssa est un plus non négligeable. Les deux facettes totalement opposées du personnage, qui peuvent s'alterner, permettent ainsi pas mal de retournements de situations plutôt délectables où le chasseur devient le gibier. Toutefois, si l'un des points forts des premiers opus était de ne pouvoir se défendre, pas du tout dans le premier, un peu dans le second, cet opus-là dévie allègrement dans un style plus silentesque où vous pourrez prendre et utiliser une arme, du moins uniquement Bates. Une véritable hérésie dans cette série où le principe premier du jeu était justement de n'avoir aucune arme pour se défendre. Vous pourrez même débloquer un monde où le principe est de zigouiller du zombie à tout va. Quelle déchéance! Ne crachons tout de même pas dans la soupe, les principaux éléments sont toujours là. Des courses-poursuites, des cachettes et des musiques bien stressantes. L'idée de pouvoir permuter entre Alyssa et Bates pour faire évoluer le scénario est plutôt sympa. Malheureusement, côté technique, ce n'est pas encore la panacée. La 3D est toujours aussi laide et cubique, bien que légèrement plus colorée que dans Clock Tower Second, mais l'animation, elle, est un peu moins raide qu'avant. Bref, ce hors-série reste en deçà de ses prédécesseurs malgré de bonnes idées. Une meilleure réalisation technique lui aurait permis d'avoir une bien meilleure popularité auprès du grand public japonais et américain. Et oui, allez savoir pourquoi ASCII a cru bon de ne pas réitérer la distribution du jeu en Europe, ne se limitant cette fois-ci qu'au seul marché US, où le jeu est considéré comme une suite, là où il s'agit d'un épisode à part. Même si Ghost Aid a eu la lourde tâche de succéder à Scissor Men, ce petit nouveau aura quand même fait son effet. Un ennemi récurrent au visage masqué, traînant derrière lui une gigantesque lame. J'ai comme l'impression que l'on reverra ça 3 ans plus tard. Notons enfin que contrairement à son prédécesseur qui avait bénéficié d'une simple traduction d'une qualité discutable, cet opus a carrément été adapté au marché occidental, avec changement de nom des personnages et nouveaux doublages. Cette pratique, ne donnant généralement pas des résultats très heureux, donnons tout de même une mention spéciale au doubleur américain de Bates, Roger L. Jackson. Sa prestation donne au personnage de Bates une dimension plus importante. Une voix suavement froide, une vraie voix de psychopathe comme on les aime.
Hurry up, old lady, get the hell out of here!
Après la fermeture du studio Human Entertainment en 1999, on aurait pu croire l'aventure Clock Tower définitivement terminée et la considérer comme une des nombreuses séries qui ont eu leur heure de gloire et qui finissent en un songe dans le coin de la mémoire des joueurs qui en auront rapidement fait le deuil pour passer à autre chose. Que nini, c'était sans compter certains éditeurs aux dents longues qui, tels des charognards, fondent sur des licences à bas prix pour les sacrifier sur l'autel de la rentabilité. Capcom, grosse pointure du survival horror, à tort ou à raison, y a vu là une trop belle occasion de s'octroyer une licence chère au cœur d'un grand nombre de joueurs amateurs de frissons, lui permettant ainsi de s'assurer des ventes sans trop se casser la tête. Pour preuve d'un certain intérêt financier, l'éditeur n'ose même pas développer lui-même le titre et préfère laisser le boulot au studio Sunsoft, développeur plutôt connu, mais n'ayant jamais su réellement briller avec ses propres licences. C'est ainsi que la fin de l'année 2002 voit l'arrivée de Clock Tower 3, qui, tout comme l'opus Ghost Head, fait table rase du passé, mais à un niveau encore plus prononcé. Non seulement l'histoire n'a pas grand-chose à voir avec les prédécesseurs, même si la famille Burroughs n'est jamais très loin, mais le point and click est passé à la trappe au profit d'un principe de jeu plus conventionnel et plus proche d'un Resident Evil. Se déroulant en Angleterre, vous incarnez toujours une jeune adolescente à l'aube de ses 15 ans, Elisa Hamilton. Cette jeune fille, envoyée en pensionnat par sa mère, reçoit un jour une étrange lettre de cette dernière, lui intimant l'ordre de se cacher jusqu'à ce que son 15e anniversaire soit passé. Intriguée par cette missive et aidée par la stupidité engendrée par la puberté, la jeune fille décide de désobéir et rentre au foyer familial. Elle n'y trouvera qu'un mystérieux homme en noir, au dessin tout aussi sombre.
Are you one of the lodgers?
Yes, I am.
Oh, I'm Elisa, Nancy's daughter.
Elisa découvrira bien vite que les filles de sa famille possèdent un étrange pouvoir. Les Wooders, tels qu'on les nomme, ont la capacité d'apaiser les âmes torturées qui hantent ce bas monde et de les aider à regagner les cieux. Ce pouvoir atteignant son apogée au 15e anniversaire du Wooder. Notre héroïne sera alors propulsée dans différents lieux et époques pour mettre ses talents en œuvre. Ainsi, découvrira-t-elle ce qui est arrivé à sa mère et à son grand-père, et ce que complote cet étrange vieillard ? Qu'une chose soit claire, Clock Tower 3 est loin d'avoir recueilli tous les suffrages auprès du public. D'aucuns lui reprochent les changements radicaux par rapport à ses prédécesseurs. Malgré une réalisation plus aboutie que les précédents, celle-ci n'est pas à la hauteur du support et le résultat aurait pu être bien meilleur. D'autres pointent surtout du doigt l'ambiance typique de Clock Tower qui est ici inexistante. Malgré la présence du concept phare de la série, à savoir une perpétuelle course-poursuite entre l'héroïne et les méchants, ainsi que la possibilité de se cacher pour se sortir du guépier. Bref, la sauce ne prend pas et cet opus ne sera donc pas LE Clock Tower que tous les fans attendent, à savoir un épisode alliant ambiance terrifiante et réalisation à la hauteur. A noter que, si le premier opus de la saga s'est énormément inspiré des gialli italiens, cet épisode a puisé l'inspiration dans les grands criminels anglais pour la conception des ennemis du jeu. On ne pouvait pas faire une émission entièrement consacrée à la saga Clock Tower sans aborder le cas d'Emento. Nommé Hunting Ground en Occident, ce jeu développé et édité par Capcom sur PlayStation 2 en avril 2005 comporte de nombreuses similitudes avec Clock Tower. Une jeune fille, une grande demeure inconnue, un ennemi récurrent, aucune arme, des cachettes, son self-control, etc. Autant de points communs ne laissent que peu de place au doute. S'il est avéré que Hunting Ground fut, à la base, développé comme étant Clock Tower 4, les raisons du changement de cap restent aujourd'hui encore assez mystérieuses. Plusieurs hypothèses furent émises. La plus récurrente affirme que l'érotisme latent qui se dégage de l'atmosphère du titre était en totale inéquation avec l'ambiance habituelle d'un Clock Tower. Néanmoins, cette théorie, comme toutes les autres d'ailleurs, n'ont jamais été confirmées par les développeurs, qui sont toujours restés muets sur ce sujet. Un autre détail amusant sur ce titre est qu'il emprunte certains décors initialement utilisés dans l'une des versions bêta de Resident Evil 4. Ce n'est guère étonnant quand on sait que la toute première version du projet a été recyclée pour devenir Devil May Cry. Hunting Ground, bien qu'ayant de nombreuses filiations avec la saga de Human, ne peut donc légitimement être considéré comme un opus de la série. Avant de terminer cette émission, j'aimerais parler brièvement des hommages rendus à la franchise de Human. Si de nombreux jeux amateurs basés sur Clock Tower foisonnent sur la toile, ceux-ci n'ont que peu d'intérêt, car généralement basés sur le logiciel RPG Maker. Deux titres méritent tout de même que l'on s'y intéresse. Le premier, Homesick, reprend de très nombreux éléments de Clock Tower. Ce point and click vous mettra dans la peau d'une jeune fille partie chez des amis dont elle n'a plus de nouvelles. Plongée dans l'obscurité de leur maison, vous devrez mener l'enquête à la seule lumière de votre lampe torche, en espérant que vous ne tomberez pas nez à nez avec le tueur sanguinaire qui rôde. Après un petit moment d'adaptation à la maniabilité assez particulière du jeu, vous retrouverez totalement l'ambiance du premier Clock Tower, l'obscurité en plus. Un très bon jeu. Le second, Realm of Ur, devait être à la base un remake du premier Clock Tower. Finalement, l'équipe italienne à l'origine de ce projet a pris de nombreuses libertés sur l'histoire, transformant leur jeu en hommage plus qu'en remake. Le projet, démarré en 2009 et initialement prévu sur PC, était quasiment terminé, mais celui-ci a totalement été repris à zéro pour être entièrement refait en 3D grâce au financement d'un éditeur italien. Prévu désormais sur PC et Wii U, le développement se fait dans l'anonymat le plus absolu, à tel point que l'on se demande même si cela est toujours d'actualité. Nous voici arrivés au bout de cette rétrospective sur la saga Clock Tower. J'aurais pu vous parler rapidement de l'adaptation au cinéma de cette franchise, mais cela sortirait du cadre de cette émission. De plus, comme le projet traîne en longueur depuis des années, c'est donc probablement un projet mort-né, et ce n'est pas plus mal. Toutefois, mon petit doigt me dit que nous entendrons beaucoup parler de Clock Tower dans les mois qui arrivent, car non seulement la saga fêtera ses 20 ans l'année prochaine, mais l'un de ses créateurs a annoncé lors du dernier Tokyo Game Show le développement d'un titre nommé pour l'instant Project Scissors, et qui se veut d'ores et déjà être le successeur spirituel de la saga. On en salive d'avance. En tout cas, j'espère que ce hors-série vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette saga. Quant à nous, nous nous retrouverons dans 15 jours avec un épisode classique de Rétrovision. D'ici là, bonne fête d'Halloween à tous !